Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Du poison au pardon, c'est un troisième entretien dans cette série des clés pour vivre. Je reçois toute la semaine son auteur, Priscille Roquebert. Bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez avec votre nom de jeune fille.
Oui.
Et vous témoignez dans ce livre, je dirais, d'une histoire qui était votre histoire de petite fille, d'adolescente, de jeune fille, je dirais presque libérée à l'âge de 18 ans, puisque 18 ans, c'est l'envol. Vous irez faire vos propres pas en Irlande, vous libérez un peu de cette famille et libérez surtout, donc on y vient au cœur de cette semaine et dans ce temps de Noël, mais c'est important. C'est un tableau sombre et noir que nous allons évoquer. Dans ce milieu de semaine, vous allez être confronté avec vos sœurs, votre maman, que nous pouvons saluer aussi, et toutes vos sœurs et puis vos grands-parents, parce que on les découvre aussi dans cet ouvrage. C'est cette violence d'un papa alcoolique, et puis on va découvrir au fil de la lecture aussi qu'il sera diagnostiqué bipolaire. Donc, cette addiction à la coke commence comment dans l'histoire et puis la petite fille que vous êtes, Priscille ?
Je pense qu'elle a commencé avant que je réalise, forcément, parce que ma mère a essayé de nous le cacher pendant plusieurs mois. Il se trouve que moi, je l'ai découvert un jour où on était en vacances en famille. Et à ce moment-là, voilà, ma mère n'était pas là et j'étais avec deux autres de mes sœurs. Et là, on a entendu un bruit fracassant dans la pièce d'à côté. Et c'était mon père qui, en fait, avait trop bu, qui ne marchait plus debout, qui s'était accroché au rideau, qui était tombé et tout ça. Et donc là, c'est la première fois où je vois mon père. Et puis même, en fait, physiquement, il avait les yeux rouges, il transpirait, il avait la bouche pâteuse, il s'accrochait au mur. Enfin, là, pour le coup, je me suis dit, c'est qui cet homme ? Enfin, j'ai eu peur.
Vous avez quel âge ?
9-10 ans. 9-10 ans à peu près. Peut-être même plus 8-9 ans. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, on court dehors avec mes petites sœurs en attendant notre mère qui n'était pas là, parce que c'est hors de question qu'on rentre dans la maison. Et quand elle arrive, c'est pour la première fois, j'entends ces mots qui dit, elle nous dit, papa boit trop de vin, on va l'aider à guérir, on va prier pour lui, et voilà, on va vraiment prier pour lui.
Parce que vous êtes une famille
On est une famille catholique. Oui, très catholique, oui, parelmoniale, prière tous les soirs.
Donc la bonne famille catholique, qui présente bien.
Ah oui, tout à fait.
Au niveau de la vitrine.
Ah oui, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Oui. La messe tous les dimanches, le catéchisme.
Le scoutisme pour vos sœurs.
Ouais. Le catéchisme les week-ends. Oui, c'est sûr que mes parents croient en Dieu, sont pratiquants et veulent nous montrer le chemin vers Dieu, en tout cas.
Alors, ce chemin va s'arrêter un peu pour toute la famille.
Le chemin vers Dieu ?
Le chemin vers Dieu, je dirais, l'histoire d'une famille qui vit à Arcachon, vous en parlez aussi. C'est des beaux souvenirs près de la mer.
Oui, c'est sûr que...
Il y a des moments de joie.
Oui, alors là, je suis encore plus jeune où effectivement, mon père, c'est un bon vivant qui aime bien rigoler, faire des blagues au téléphone, qui a beaucoup d'amis, qui a des bonnes relations sociales. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est avant qu'il bascule dans l'alcool. Mais effectivement, c'est un papa joyeux. Un clown.
Donc, quand, je dirais, cette nouvelle compagne, l'alcool, arrive dans la vie de votre papa et la vie de la famille, donc, et la vie conjugale aussi pour votre maman, puis cette vie de famille avec les enfants, en fait, c'est l'horreur et c'est la terreur qui va s'installer dans la famille. Ces moments de terreur, ces moments aussi de terreur, particulièrement la nuit, est-ce que vous pouvez décrire pour ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui.
Dans ce
temps de Noël, certes.
Il y a des familles qui vivent des choses similaires.
Des vérités sur certaines familles.
Oui, c'est la peur, c'est même pire que la peur, c'est la frayeur que mon père tue ma mère. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai peur nuit et jour, ça c'est sûr, mais encore plus la nuit, parce que la nuit, tout le monde dort, parce que la nuit, il fait noir. Et du coup, je commence à faire des crises d'angoisse toutes les nuits. Si dehors, il y a une portière de voiture qui claque, je pense que mon père est en train de tuer ma mère. S'il y a un chien qui aboie ou des volets qui se ferment, pour moi, tout ça, c'est des signaux. C'est, voilà, c'est vraiment l'alerte, le gyrophare. Attention, il y a eu un bruit... comment dire, brutal, enfin inattendu, descend, et donc je descends, va voir ce qui se passe. Et donc je passais mes nuits sur le qui-vive, à être prête à intervenir, à descendre en pleurant et en criant dès que j'entendais un bruit, même extérieur du coup. Et parce que aussi, la nuit, c'était surtout la nuit que mon père frappait ma mère. Et donc voilà, il y avait des nuits où en plein milieu de la nuit, elle se mettait à hurler, à crier en sortant de la chambre. Et donc, toutes avec mes sœurs, on arrivait terrorisées sur le palier en la suppliant de ne pas retourner dans la chambre avec lui. Il y a des nuits que je passe dans le même lit que ma sœur, dont la chambre est sur le même étage que mes parents, où on va même dans les toilettes qui sont collées à la chambre de mes parents. Ces toilettes qui, en plus, ont de la moquette, et mon père ne tenant pas droit... Enfin, voilà, je vous laisse imaginer le mélange urine, alcool, vomi sur une moquette. Et ben voilà, on passe parfois des nuits, enfin des heures entières dans ces toilettes-là à se relayer pour être prête à intervenir si jamais papa frappe maman. Donc à l'âge de 12 ans, ma mère finit par me donner des anxiolytiques la nuit. Et c'est fou parce que je découvre cette sensation de s'endormir paisiblement. Mais ça, c'est au moment où on s'enfuit de la maison. Donc, ces sensations de s'endormir paisiblement, c'est toujours quand mon père n'est pas sous le même toit que nous. Mais du coup, oui, c'est assez terrorisant. Et puis après, c'est vrai qu'il y a les angoisses de la journée parce que mon père est tout le temps en arrêt de travail. Donc, il est tout le temps tout seul avec maman pendant que moi, je suis au collège.
Et quand vous êtes au collège, vous prenez le temps de téléphoner à votre maman.
Oui, à chaque pause, j'appelle et je lui dis « Est-ce que papa va bien ?» Si elle me dit oui, ce qui est très rare, bon, bah, très bien.
Qui protège, permettez-moi, mais quand on se fait lecteur aussi de ce livre témoignage, est-ce que les rôles ne s'inversent pas, Priscille Roquebert? La fille adolescente que vous êtes protège en fait cette maman?
Alors déjà, je pense que chacune d'entre nous, il n'y a pas que moi, mais chacune de mes sœurs pourra dire qu'elle s'est sentie responsable de notre maman à un moment. C'est vrai qu'on a toutes considéré qu'elle était victime. Après, je n'accablerai pas ma mère parce que je pense que je sais... Enfin, voilà, imaginons, moi, ça m'arrive à moi. Est-ce que je peux certifier que j'aurais pris des bonnes décisions, que je les aurais pris rapidement, que j'aurais quitté l'homme que j'aime, que j'aurais pas cherché à ce qu'il s'en sorte et à me battre jusqu'au bout, même s'il y a de la mesure dans le jusqu'au bout. Mais voilà, et puis elle était aussi sous une forme d'emprise. Bien évidemment que les choses, j'ai pris des responsabilités sans doute que j'aurais pas dû prendre à cet âge-là. Ça m'a fait grandir un peu plus vite, sans doute. Après, ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui aussi.
Tout à fait, oui. J'ai pris des responsabilités. Vous pensez à leur relecture que vous étiez, je dirais, trop jeune pour prendre ces responsabilités.
Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'étais tout le temps inquiète, tout le temps. J'ai accompagné ma mère faire des tournées des bars et, enfin voilà, on s'est confié des choses. En même temps, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, une adolescente, une petite jeune adolescente de 12 ans, c'est pas la vie qu'elle doit mener. De toute façon, même d'avoir un papa comme ça.
Oui, alors il y a une petite sœur qui revient aussi, hein, que vous nommez Thérèse. Hein. Ouais. Ouais, oui, elle est importante aussi, Thérèse. Elle est au fond, la petite dernière.
Ouais.
Elle est un soutien aussi. Quand elle voit pleurer sa grande sœur, elle vient donner sa consolation.
Ah ouais. Ouais. Alors, ma petite sœur, pour le coup, elle a jamais connu mon père normal, entre guillemets. Parce que moi, j'ai dans ma petite enfance des souvenirs quand même. Et puis, il y a des vidéos. Ils avaient un caméscope, mon père adorait, enfin ils adoraient filmer. Donc il y a quand même, même si je m'en souviens pas de tout, il y a quand même des images qui montrent qu'on a été heureux à des moments. Et ma dernière petite sœur, elle est arrivée parce que mes parents ont voulu miser sur ce bébé pour s'en sortir. Bon, ça n'a pas marché, mais il n'empêche que j'ai eu un amour pour cet enfant de l'annonce de la grossesse de ma mère jusqu'à sa naissance. Enfin, ces deux annonces-là, j'ai pleuré de joie pour la première fois de ma vie.
On peut pleurer de joie.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle avait une tendresse. On avait une tendresse particulière. Elle avait un cœur. Enfin, elle l'a encore maintenant. Hein, un grand cœur et une forte compassion. Toute petite, elle venait sécher mes larmes quand elle me voyait pleurer. Enfin, elle avait un amour débordant pour moi.
Alors, vous parlez de, on parle de cette petite dernière sœur. Vous parlez d'un papa normal et d'un papa qui n'est pas normal. Comment ce papa qui était normal a-t-il basculé dans l'alcoolisme ?
Ça, c'est des histoires
familiales.
Est-ce que
vous avez une réponse ?
Je pense que c'est plusieurs paramètres qui sont à un moment donné qui sont entrés en collision. Une fragilité psychologique qui datait pas d'hier de mon père. Voilà, je pense que c'est vraiment un contexte,
personnel,
voilà,
une histoire aussi
mis sur une fragilité déjà à la
mis
base.
Mis sur une fragilité.
Voilà. Ouais.
C'est important de le rappeler.
Ouais, ouais.
Priscille Roquepaire, merci de votre témoignage de ce jour dans ce beau temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. C'est plein d'espoir aussi, de l'horreur, vous connaissez au fond, et on va en parler, au milieu de l'horreur, au milieu des drames, il y aura aussi ces moments aussi de tendresse, hein, ces moments de retour et d'aller-retour, on va dire. Je vous demande en retour dans ces studios, ici à Lourdes, demain, si vous le voulez bien, à la même heure. Et merci.